Lisons la parole, frères et sœurs. Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12 aujourd'hui. Matthieu chapitre 5, les versets 11 à 12. Ah, pardon, qu'est-ce que je raconte? Les versets 1 à 12, à la gloire de notre Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dès le Seigneur à bénir sa parole. Eh bien, pour vous qui nous rejoignez éventuellement pour la toute première fois, nous voulons simplement commencer par vous informer. Peut-être vous rappeler que nous étudions une nouvelle série de leçons dans la congrégation depuis déjà quelques semaines, ayant pour thème le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. L'étude de cette thématique nous a déjà amené à considérer plusieurs éléments importants tels que l'état d'esprit des gens d'Israël, en particulier du Moyen-Orient, au moment où Jésus a commencé à parler de la venue du royaume de Dieu. Nous avions considéré cet élément-là. Nous avons aussi expliqué le fait que le royaume de Dieu est au cœur de la prédication du Messie. C'est quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Et il dira même que c'est pour cela qu'il est venu, pour proclamer le royaume de son Père, le royaume de Dieu. Nous avons démontré que Jésus, en tant que fils de Dieu, est l'agent de ce royaume. Et il est aussi le roi du royaume. En plus d'en être l'instrument en tant que fils de Dieu, parce qu'il est le porteur du royaume, le royaume est venu en lui. Et nous avons aussi expliqué que les gens qui écoutaient Jésus, ils avaient une autre compréhension de ce que Jésus enseignait comme étant le royaume. Ils s'attendaient à autre chose. Oui, ils s'attendaient à un royaume, mais dans leur esprit, le royaume devrait ressembler à autre chose. Et ils n'étaient pas d'accord avec ce que Jésus, en tout cas certains d'entre eux, n'étaient pas d'accord avec la manière dont Jésus a approché le concept et la réalité du royaume. Et chemin faisant, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été considérés. Chemin faisant, nous sommes arrivés à l'étude de ce que nous appelons avec les théologiens modernes de ce que nous appelons les principes du royaume. du moins la philosophie du royaume, l'éthique du royaume, les règles du jeu du royaume. C'est-à-dire que comment le peuple du royaume, comment les habitants du royaume, les sujets du royaume, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ ou bien les membres de ce royaume, de l'Église, comment ils devraient vivre leur relation avec le roi du royaume, avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et aussi comment ils devraient vivre le royaume entre eux, comment ils devraient vivre dans le royaume entre eux ou vivre le royaume entre eux. Et aussi comment vivre le royaume avec ceux qui sont à l'extérieur du royaume. Et j'ai expliqué que pour des raisons théologiques et valables, le sermon sur la montagne est considéré comme étant ce sermon, ce discours, cette intervention au cours de laquelle, parlant d'intervention, que Jésus a précisé ses attentes à l'endroit des citoyens du royaume. Tout Matthieu 5 à 7, appelé habituellement le sermon sur la montagne. Mais, comme je l'ai expliqué, les béatitudes du Seigneur que nous trouvons en Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12 en particulier, est considéré comme étant l'introduction de ce discours, ou bien le préliminaire. Et dans le discours, dans cette introduction appelée les béatitudes, donc les béatitudes 5 à 12 constituent l'introduction, le préliminaire au sermon lui-même sur la montagne. Et dans l'introduction, Jésus établit, il présente, il définit l'identité, les traits de caractère des citoyens du royaume, du peuple du royaume, en commençant par énumérer quelques éléments caractéristiques. Par exemple, au verset 3, il dit que les citoyens du royaume sont des pauvres en esprit. C'est un constat que Jésus fait. Et j'ai expliqué qu'au verset 4, il dira qu'ils sont des affligés. Les citoyens du royaume, ce sont des affligés. J'ai expliqué que la plupart de ces traits de caractère, de ces termes, de ces expressions utilisées par le Christ, le roi, pour définir les citoyens du royaume, n'ont pas nécessairement le même sens qu'elles ont, en parlant d'expressions, qu'elles ont habituellement dans la vie courante. J'ai déjà expliqué cela. Je ne veux pas revenir sur cela pour ne pas trop pénaliser ceux qui ont suivi les dernières sessions d'études. Mais c'est important, tout au moins, que je le signale en guise de récapitulation, en guise de résumé de ce qui a été couvert depuis qu'on a commencé. Au verset 5, il parlera des citoyens du royaume, du peuple du royaume, comme étant des débonnaires. Ça aussi, le sens, l'expression du terme débonnaire a été décortiqué avec l'aide du Seigneur. Et au verset 6, il dira d'eux qu'ils sont ceux-là qui ont faim, qui ont eu faim et qui ont faim et soif de la justice. Et tout ça aussi a été expliqué. Aujourd'hui, chemin faisant, nous sommes rendus au verset 7 où le Christ mentionne un autre trait de caractère, vous l'aurez remarqué, des citoyens du royaume, en parlant d'eux comme étant des miséricordieux. Comme étant des miséricordieux, quand il dit au verset 7, Matthieu chapitre 5, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Peut-être aussi rappeler cet élément fondamental pour ceux qui n'ont pas suivi les séances antérieures, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un constat que le Christ fait. Et en faisant ce constat-là, ce que le Christ fait, parce que, comme je l'ai dit, l'auditoire du Christ était constitué des disciples et de la foule. Donc, le discours de Jésus, le sermon de Jésus, tout aussi bien que l'introduction du sermon, c'est-à-dire les béatitudes, eh bien, s'adresse à la fois aux disciples et à la foule. Aux disciples, pour leur dire, voilà leur espérance, voilà leur identité, voilà leur bonheur. Et à ceux qui écoutent, qui ne sont pas des disciples, qui sont de la foule, les gens de la foule, l'auditoire est double. Ce sont ceux qui sont déjà dans le royaume et ceux qui pourraient éventuellement devenir membres du royaume parce qu'ils le suivaient partout où il passait, ils écoutaient ses enseignements. Eh bien, il est en train de leur dire à ceux-là, à ceux qui sont déjà dans le royaume, le Christ est en train de leur dire, voilà votre condition, voilà votre identité, voilà votre trait de caractère, voilà, eh bien, votre don reçu en tant que citoyen du royaume. Et par le fait même, voilà le bonheur et qui accompagne, eh bien, ce don-là. Mais à ceux qui écoutent de la foule, qui ne sont pas encore membres du royaume, qui n'ont pas encore reçu le royaume, et dans leur cœur, eh bien, Jésus est en train de leur dire, eh bien, à ceux qui pourraient devenir, voici ce qui vous attend si vous faites comme ses disciples, comme ceux qui sont déjà dans le royaume. Donc, j'aurai l'occasion d'élaborer davantage sur cet aspect-là d'un discours qui est adressé tant aux convertis qu'aux inconvertis, c'est-à-dire tant aux citoyens du royaume qu'à la foule. J'aurai le temps d'en dire davantage, mais il faut commencer à comprendre cette réalité théologique, cette réalité biblique, afin que vous puissiez mieux comprendre et la suite. Et ce n'est pas pour rien que Matthieu, eh bien, prend le temps de dire, et voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui, puis en ouvrant la bouche, il les enseigna et dit. Et Matthieu a une bonne raison pour nous expliquer que l'auditoire du Christ était composé tant de la foule que, eh bien, des disciples. Donc, comme je l'ai dit, nous y reviendrons en temps et en lieu, Dieu voulant. Maintenant, attardons-nous sur le verset 7, où le Christ dit des citoyens du royaume qu'ils sont des miséricordieux. Et avant de dire qu'ils sont heureux, après avoir dit qu'ils sont heureux, et aussi en disant ils obtiendront miséricorde. Il ne spécifie pas de qui ils obtiendront miséricorde, mais vous et moi, nous savons qu'ils obtiendront miséricorde de celui qui est la source de la miséricorde, en l'occurrence le Dieu triunitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous y reviendrons. Le mot miséricordieux, écoutez bien, le mot miséricordieux renvoie au mot bienfaisant. C'est presque des synonymes. Un miséricordieux, c'est un bienfaisant. Heureux les bienfaisants. Heureux les miséricordieux, les citoyens du royaume sont des êtres bienfaisants. Vous êtes réputés dans la pensée du Christ, du point de vue du Christ, du constat du Christ, vous, et les citoyens du royaume, vous êtes des gens bienfaisants, vous êtes des gens charitables. Miséricordieux renvoie à bienfaisant, voire comme synonyme bienfaisant, aussi à charitable, heureux les charitables. C'est bien important de comprendre cela. Vous êtes des bienfaisants, des charitables. Et à le nom miséricorde, lui, dont dérive miséricordieux en tant qu'adjectif, il réfère, lui, au mot amour. Miséricorde réfère à amour. Miséricorde réfère à bienveillance. Donc, si l'adjectif renvoie à l'adjectif bienveillant, charitable, il est tout à fait normal, grammaticalement parlant, que le nom renvoie au nom. C'est tout à fait normal. La miséricorde, ou bien le fait d'être miséricordieux, traduit l'idée de venir en aide aux affligés. la miséricorde, la bienveillance, la charité, si vous voulez, traduit l'idée de venir en aide aux affligés. Elle traduit l'idée de secourir les malheureux. Le Christ définit les citoyens de son royaume comme étant des gens prompts à secourir les malheureux. Ou du moins, des gens prompts à aider les affligés. Remarquez bien quelque chose que j'ai déjà dit depuis qu'on a commencé à étudier les béatitudes. C'est à savoir que c'est un don que les citoyens du royaume reçoivent du roi du royaume, du fondateur du royaume, de l'initiateur du royaume. Les citoyens du royaume ne sont pas miséricordieux par eux-mêmes. Nous n'avons aucune trace de miséricorde en nous. Mais nous recevons le don de la miséricorde, le don de la bienfaisance, en étant fils de Dieu, en étant citoyen du royaume. Et en possédant ce don reçu du roi du royaume, nous sommes appelés à inonder, à éclairer, à saler ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont à l'extérieur du royaume en particulier, à les faire jouir de ce don que nous recevons. Voilà pourquoi le Christ terminera les béatitudes en disant au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Ce n'est pas pour rien que vous êtes le sel de la terre. Se situe juste après l'énumération des traits de caractère des citoyens du royaume. C'est une manière pour le Christ de dire à ses disciples, aux citoyens du royaume, vous avez reçu ceci, vous devez, eh bien, en faire jouir au monde, à ceux qui sont dans votre entourage, à ceux qui sont autour de vous. Vous devez les saler, vous devez les éclairer par, eh bien, ce que vous avez reçu comme don. Nous y reviendrons en temps et lieu aussi. Parler de miséricorde, frères et sœurs, mes bien-aimés, revient à parler de la compassion en action. La miséricorde, c'est une attitude d'amour désintéressé qui s'exprime au moyen d'action. Celui qui en Christ, pour Christ, à cause de Christ, grâce à Christ, affiche une attitude d'amour désintéressé, s'exprimant au moyen d'actions concrètes, est un miséricordieux. Et le Christ dit qu'il est heureux pour la simple et bonne raison que lui aussi, elle aussi, obtiendra miséricorde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous présente Jésus comme notre souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans Hébreux chapitre 2, le verset 17. Et en réalité, Jésus est notre modèle de miséricorde. Nous n'avons pas de la difficulté à comprendre que notre miséricorde vient de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, car lui-même, comme quand nous parlions de la douceur, comme don reçu de Dieu, lui-même est doux. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas procurer, offrir ce qu'on n'a pas. Le Christ est capable de faire de nous des gens miséricordieux dans son sang, par sa grâce, parce que lui-même est miséricordieux. Il ne peut pas faire de nous des gens doux dans sa grâce, par sa sagesse, dans son sang, que parce que lui-même est doux. Et la même chose, la même remarque vaut pour toutes les autres béatitudes du Seigneur, frères et sœurs. Jésus, notre Sauveur bien-aimé, est l'exemple parfait, comment tout ce qui est bien, comment tout ce qui est beau, comment tout ce qui est agréable, comment tout ce qui est bon. Il est l'exemple parfait. Il est l'exemple suprême de la miséricorde. Et par le fait même, il est le dispensateur par excellence de la miséricorde, frères et sœurs. Le fait est que c'est de Jésus que vient la miséricorde qui nous a rachetés et la miséricorde qui nous a sanctifiés, frères et sœurs, en tant que pécheurs repentants, aujourd'hui, par grâce, membres du royaume de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ est l'homme le plus miséricordieux qui ait jamais existé, frères et sœurs. Incidemment, nous voyons Jésus exercer la miséricorde quand il guérit des malades. Nous en avons parlé quand je parlais du fait que, eh bien, le royaume est proclamé par les actions du roi, par les actions du roi du royaume. Et en exerçant ces actions-là, par lesquels il proclamait le royaume aussi, il proclamait la venue du royaume, mais il exerçait par-dessus tout la miséricorde. Nous voyons la miséricorde du Christ, ou son amour en action, quand il rétablit les boiteux, quand il rendait la vue aux aveugles, quand il rendait l'ouïe aux sourds, frères et sœurs. Nous voyons la miséricorde du Fils de Dieu en action, lui l'instrument et l'agent du royaume, quand il redonne la vie aux morts, frères et sœurs, mes bien-aimés. Jésus, le Fils de Dieu, le roi du royaume de Dieu, se montre tout aussi bien, frères et sœurs, miséricordieux quand il s'approche des délaissés, des laissés pour compte, si vous voulez, des prostituées, des péagers, des débauchés, des ivrognes, quand il s'assoit avec eux, quand il mangeait avec eux, quand il leur offrait la compagnie à ceux-là qui étaient dans la solitude. Jésus illustrait la miséricorde parfaite. Il en est de même quand Jésus pleure avec les affligés. Il en est de même quand Jésus accompagne les personnes qui sont dans la solitude. Jésus démontre également sa miséricorde quand il prend des petits dans ses bras. Il les bénit. Par ailleurs, frères et sœurs, l'histoire de la femme samaritaine au chapitre 4 de l'Évangile selon à Saint Jean, c'est un autre exemple du fait que Jésus, l'agent par excellence du royaume de Dieu, est un être miséricordieux par essence, dans sa nature même, je veux dire. On se rappelle, frères et sœurs, quand les scribes et les pharisiens ont amené la femme adultère à Jésus pour voir si Jésus approuverait la lapidation de cette femme, la condamnation de cette femme, frères et sœurs, Jésus va exercer la miséricorde envers cette femme. Lorsque il confrontera les scribes et les pharisiens en leur disant, Jean 8, verset 7, en particulier, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8, verset 7. Et quand on lit l'histoire plus profondément, on s'aperçoit que personne, à la suite de cet appel lancé par Jésus, personne n'a été en mesure de lancer la première pierre à la femme. Et alors Jésus dira à la femme, au verset 11, au tout près, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus a compati à la douleur, à la faiblesse, à la solitude de cette femme. Jésus est la miséricorde incarnée, frères et sœurs, tout en étant l'amour incarné, mais bien-aimé. La miséricorde que Jésus a exercée et continue encore d'exercer consiste, nous le venons de le voir, la bienfaisance que Jésus a exercée et continue encore d'exercer consiste à répondre essentiellement aux besoins des autres, comme le fait de donner à manger à ceux qui ont faim, comme le fait de consoler ceux qui sont affligés, comme le fait d'aimer ceux qui sont rejetés, comme le fait de pardonner ceux qui ont été offensés, comme le fait de tenir compagnie à ceux qui sont seuls. Jésus dit que le peuple de son royaume est comme ça. Jésus constate, sachant ce que lui a fait pour que cela soit une réalité, sachant ce que lui a payé pour que cela soit une réalité dans la vie du peuple du royaume. Jésus vient dire maintenant, ça y est, vous êtes ceci, vous êtes cela, dans le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Jésus est en train de dire que son peuple est comme ça. Et en étant ainsi, son peuple est heureux. Jésus est en train de dire que les citoyens du royaume sont comme ça. Et en étant ainsi, ils sont heureux. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Pour bien comprendre la réalité, le concept, ou bien la notion de miséricorde, il est facilitant d'approcher ce concept en parallèle avec d'autres concepts pour comprendre le concept ou bien la réalité de la miséricorde. Il est facilitant de mettre ce concept en parallèle avec d'autres concepts qui lui sont relativement semblables, avec lesquels on a l'habitude de le confondre. Par exemple, le concept du pardon, qui est une autre vertu biblique. Nous allons camper la miséricorde versus le pardon. Pourquoi, dans quel but, pasteur? Mais je viens de le dire. Afin de mieux vous permettre de percevoir la réalité, de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de miséricorde au juste, même si j'ai déjà évoqué beaucoup d'éléments, beaucoup de faits susceptibles de nous permettre de comprendre cela, mais on est en étude biblique, on peut se payer le luxe de le faire, d'approfondir davantage. Et on ne peut pas le faire en prédication, mais ici, c'est le moment, c'est l'endroit pour le faire. Donc, miséricorde et pardon. Disons tout d'abord que la miséricorde a des caractéristiques en commun avec le pardon. La miséricorde a des caractéristiques communes, a des traits communs avec le pardon. Donc, vous comprenez que ce n'est pas exactement la même chose aussi. Ils ont des points communs. La miséricorde, je répète, est distincte du pardon. Mais la miséricorde a des points communs avec le pardon. Par exemple, l'apôtre Paul dit que Jésus, suivez-moi bien, Tite chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul dit que, regardez bien, Jésus nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Autrement dit, le pardon de nos péchés comme citoyens du royaume découle de la miséricorde de Dieu. Le pardon est un produit de la miséricorde. Le pardon est un dérivé de la miséricorde. Le pardon n'est pas la miséricorde. La miséricorde n'est pas le pardon. Mais le pardon découle de la miséricorde. En d'autres termes, la miséricorde est plus grande que le pardon. La miséricorde comprend le pardon. En quelque sorte, le pardon est un aspect, est un chapitre de la miséricorde, hein, parce que Dieu est miséricordieux envers nous, même quand nous ne péchons pas. Comme nous pouvons être miséricordieux nous aussi envers ceux qui ne nous ont jamais fait de tort. Voyez-vous? Alors, la miséricorde de Dieu ne fait pas que pardonner nos transgressions. La miséricorde de Dieu s'applique, hein? Voyez-vous, pourquoi la miséricorde est plus grande que le pardon et inclut le pardon? Parce que la miséricorde s'applique à toutes nos faiblesses et à tous nos besoins. Le pardon, lui, ne s'applique pas à toutes nos faiblesses et à tous nos besoins. Le pardon s'applique au tort causé, au péché commis, alors que la miséricorde va s'occuper d'autres chapitres, d'autres aspects de la vie de la personne qui serait éventuellement pardonnée ou pas. C'est en ce sens que la miséricorde, entre autres, est distincte du pardon, tout en incluant le pardon, frères et sœurs. Si l'auteur de Lamentations au chapitre 3, verset 22 dira, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ou alors sa miséricorde se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande. Donc, la miséricorde de Dieu envers ses enfants ne cesse jamais. Donc, la miséricorde est en action alors que, à tout instant du jour, alors que le pardon intervient, quand il y a une offense, hein, quand il y a un péché, quand il y a un affront, le parallèle existant entre la miséricorde et le pardon, dans le but de mieux nous permettre de cerner, eh bien, la réalité de la miséricorde. Nous venons de comparer la miséricorde avec le pardon pour mieux en saisir le sens. Maintenant, campons la miséricorde et l'amour toujours dans le même but, c'est-à-dire de mieux en comprendre le sens, pour mieux comprendre quand le Christ dit de vous et de moi en tant que citoyen du royaume que nous sommes des gens miséricordieux et que par le fait même, nous sommes heureux parce que Dieu, à son tour, nous fera miséricorde, frères et sœurs. Le pardon découle de la miséricorde et la miséricorde, elle, découle de l'amour. Ah, la miséricorde, ce n'est pas l'amour. Et l'amour, ce n'est pas la miséricorde. C'est des voisines, c'est des cousines, des cousins-cousines. C'est bien important de saisir cela. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voyez-vous? Dieu qui est riche en miséricorde, c'est une chose. Et puis on a à cause. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Ah! Bien important de comprendre cela. Donc, si le pardon vient de la miséricorde, ou si la miséricorde inclut le pardon, eh bien, l'amour inclut la miséricorde. Bien important de comprendre cela. L'amour est plus grand que la miséricorde, de la même manière que la miséricorde est plus grand que le pardon. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. L'amour se manifeste de nombreuses manières, frères et sœurs, qui n'impliquent ni le pardon, ni la miséricorde. Vous le savez. L'amour aime même quand il n'y a pas de tort à pardonner. Même si pardonner, c'est aussi un geste d'amour, c'est un geste essentiellement d'amour. Même lorsqu'il n'y a pas de besoin à combler, l'amour aime. L'amour aime même quand il n'y a pas de pardon à accorder, d'offense à pardonner. Et l'amour est, l'amour existe même quand il n'y a pas de besoin à combler. Donc, voilà, contrairement à la miséricorde, qui, elle, se pratique versus par rapport à un besoin à combler, comme on l'a dit en introduction. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père, bien que ni le Fils ni le Père n'aient de péché à pardonner et n'aient de besoin à combler. Par exemple, pour expliquer cela, ce que je viens de dire, le Père aime le Fils aime le Saint-Esprit, mais ni l'un ni l'autre n'a de besoin à combler, n'a de faute à pardonner. Voyez-vous? Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Comment on peut expliquer que l'amour est plus grand que la miséricorde? Frères et sœurs. Lorsque nous entrerons au ciel, frères et sœurs, vous et moi, vous vous rappelez cela? Ça ne fait pas longtemps qu'on a étudié l'Apocalypse. Lorsque vous et moi, nous serons dans le ciel de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, lorsque nous serons, nous parviendrons au royaume éternel de Dieu, vous vous rappelez ce qu'on avait vu ensemble, vous et moi? Nous n'aurons pas de péché à pardonner. C'est fini, ça. Nous n'aurons pas de besoin à combler. Mais comprenez bien que l'amour de Dieu pour nous restera lui-même. L'amour de Dieu demeurera pour nous, frères et sœurs. Pourquoi? Mais parce que l'amour, contrairement à la miséricorde, ne se produit pas par rapport à des besoins à combler. Ou comme le pardon par rapport à des péchés, à des offenses à pardonner, frères et sœurs. L'amour va rester dans l'éternité et nous ferons l'objet de l'amour éternel de notre Dieu, frères et sœurs. Et l'amour de Dieu pour nous ne fera que commencer lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. La miséricorde agit en vertu d'un besoin. L'amour agit en vertu de l'affection, qu'il y ait besoin ou non. La miséricorde est réservée aux périodes difficiles de la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme. L'amour, lui, est constant. Il ne peut y avoir de véritable miséricorde sans amour, mais il peut y avoir de véritable amour sans miséricorde, par exemple. Nous avons réglé la différence entre la miséricorde et le pardon pour mieux saisir le sens de l'expression miséricordieux ou miséricorde tout court, qui est le nom dont dérive l'adjectif miséricordieux. Nous venons de le régler par rapport à l'amour. Nous allons comparer la miséricorde avec la grâce pour mieux comprendre de quoi le Christ parle quand il dit de vous que vous êtes des gens miséricordieux en tant que citoyens du royaume et de ceux qui vous ont précédés dans le royaume, ceux qui vous succéderont dans le royaume. La miséricorde et la grâce. La miséricorde est liée à la grâce qui, elle, découle de l'amour, tout comme le pardon découle de la miséricorde. La grâce découle de l'amour. Et ainsi, la miséricorde est liée à la grâce. Dans chacune de ces trois épîtres pastorales, frères et sœurs, l'apôtre Paul va parler de grâce, de miséricorde et de paix dans ses salutations. Par exemple, 1 Timothée 1, le verset 2. 2 Timothée 1, verset 2. Tite 1, verset 4, etc. La grâce et la miséricorde sont les éléments les plus étroitement liées, elles sont plus proches. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont identiques, qu'elles sont pareilles. La grâce est une chose, la miséricorde, c'en est une autre. Mais elles sont liées. Elles ont plus de points communs entre elles qu'entre la miséricorde et le pardon, par exemple. Ou qu'entre l'amour et la miséricorde, par exemple. La grâce et la miséricorde sont plus proches. La miséricorde et les termes qui dérivent de la miséricorde, comme bienveillance, dont on parlait tout à l'heure, bienfaisance ou autre, ils ont un rapport avec les épreuves, les difficultés, les tourments de la vie, la souffrance, la douleur, la misère, etc. En d'autres termes, la miséricorde se rapporte au Saint-Homme, la grâce se rapporte à la cause. Je vais expliquer. Toujours des exemples dans la Bible. La miséricorde se rapporte au Saint-Homme, des difficultés de quelqu'un. Si je me retrouve à la rue, par exemple. Et la grâce s'attaque à la cause du problème qui fait en sorte que je suis à la rue. Par exemple. Voici un exemple. Pour voir la différence entre la grâce et la miséricorde. Quand le bon samaritain va panser les blessures de l'homme qui a été abattu, qui a été battu et dévalisé, il exercera la miséricorde. Quand le bon samaritain pense ou a pansé les blessures de l'homme qui a été battu et dévalisé, qui a été laissé pour mort, le bon samaritain a exercé la miséricorde en pansant les blessures, en s'attaquant à ce qu'il voit, au cet homme, de la difficulté de cet homme. Mais lorsque le bon samaritain portera l'homme à l'auberge la plus proche du quartier, et dit qu'il paiera pour son logement jusqu'à ce que l'homme soit rétabli, eh bien, la miséricorde fait place maintenant à la grâce. Il a pratiqué la grâce. Quand il a pansé les blessures de l'homme, il a exercé la miséricorde, et quand il l'a conduit à l'auberge pour qu'on en prenne soin à ses frais, aux frais du bon samaritain, eh bien, là, il exerce la grâce. Parce que la raison pour laquelle il se trouvait dans la rue, ben c'est parce que il avait besoin. La raison pour laquelle il était blessé, parce que justement, eh bien, la raison pour laquelle c'est parce qu'il était blessé. Donc, il faut s'attaquer à la cause de ce qui a motivé son intervention. Voilà un exemple parmi d'autres pour expliquer la différence entre les deux termes. Et lorsque nous aurons fait le tour du sens de l'expression du terme miséricordieux, nous comprendrons de quoi Jésus parle quand il nous dit à vous et à moi que nous sommes des gens miséricordieux. Nous allons maintenant comparer la miséricorde avec la justice. La miséricorde est liée à la justice. La justice donne exactement ce qu'on mérite, tandis que la miséricorde donne moins de châtiment et plus d'aide qu'on ne le mérite. La justice, eh bien, donne le châtiment que l'on mérite. La miséricorde donne moins de châtiment que l'on mérite et plus d'aide ou de soutien ou de support qu'on ne le mérite. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu juste, il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de pardon, il est un Dieu de bonté, il a tout en lui, frères et sœurs, mes bien-aimés. Notre Dieu a déjà permis à des hommes comme vous et moi d'illustrer la miséricorde. La miséricorde a amené Moïse à supplier le Seigneur d'ôter la lèpre par laquelle sa sœur Myriam avait été atteinte. C'est la miséricorde, ça. Quand le Christ dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », pour parler des citoyens du royaume, c'est un don reçu de Dieu en Jésus-Christ. C'est possible. C'est une réalité. Car depuis l'Ancien Testament, on voyait des hommes et des femmes exercer la miséricorde. Les hommes et les femmes de Dieu exercer la miséricorde n'étaient même pas encore sous la Nouvelle Alliance. Vous vous rappelez que Myriam a été frappée de lèpre en punition à ses agissements à l'endroit de Moïse. Vous vous en souviendrez. La Bible dit que l'homme bon ou miséricordieux fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Proverbe 11, le verset 17. La même parole de Dieu nous dit, le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Proverbe 12, le verset 10. Dans son discours sur le mont des Oliviers, mais Joseph aussi a exercé la miséricorde envers ses parents, envers ses frères, comme autre exemple. David a aussi exercé la miséricorde envers Saül, quand il n'a pas donné à Saül ce que Saül mérita. On y reviendra peut-être. Dans son discours sur le mont des Oliviers, Matthieu 25, Jésus avertira les personnes qui disent lui appartenir, mais qui n'ont pas exercé de miséricorde envers ceux qui ont eu faim, envers ceux qui ont eu soif, envers les étrangers, envers les démunis, envers les malades et les prisonniers, qu'elles ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Il leur dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, parce qu'ils n'ont pas exercé la miséricorde. Regardez bien, car j'ai eu faim, mais on sait bien que ce n'est pas lui qui a eu faim, c'est son peuple qui a eu faim, et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Et la parole de Dieu, Matthieu 25, verset 41, a continué. La parole de Dieu nous montre que ces gens répondront, ces gens répondront, quand avons-nous vu ayant eu faim et que nous ne t'avons pas, eh bien, supporté. Vous connaissez la suite de l'histoire. Et Jésus leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc, Jésus, Jésus conteste l'appartenance à son royaume de gens qui se réclament de son royaume, mais qui n'ont pas su exercer la miséricorde envers des gens nécessiteux et envers des gens dans le besoin, frères et sœurs, mais bien-aimés. Pour vous et moi, la leçon est claire. Nous ne sommes pas appelés à exercer la miséricorde pour obtenir le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ainsi que ça marche. Nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non par les œuvres miséricordieuses, les plus miséricordieuses que nous aurions pu faire. Mais en étant sauvés par grâce, Jésus constate, Jésus dit que nous sommes des gens miséricordieux. En nous disant cela, après avoir fini de nous le dire, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Hein? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, cette miséricorde-là qu'il a mise en nous, qu'il a déposée en nous, ce don de miséricorde qu'il nous a fait, si nous ne l'exerçons pas envers ceux autour de nous, dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église qui serait dans le besoin, nous ne salons pas, nous n'éclairons pas, nous mettons notre lumière, eh bien, en dessous du boiseau, entre autres images que le Christ lui-même a utilisées. On n'est pas encore rendu là, bien entendu. Je vous le dis, c'était juste pour attirer votre attention sur ce qu'il faut faire au 21e siècle avec ce constat que le Fils de Dieu, le roi du royaume, dresse sur notre vie en disant que nous sommes des gens miséricordieux. Jésus, ça, comme je l'ai dit, c'est comme ça que j'ai terminé la semaine dernière. Je veux terminer comme ça parce que je veux que ça soit clair pour tout le monde. Jésus n'est pas en train de dire « Sois miséricordieux et vous aurez la vie éternelle ». Non, ce n'est pas ma lecture de ce passage. Jésus est en train de dire parce que vous êtes citoyen du royaume, eh bien, vous avez reçu ce don-là qui vient avec le royaume. En ayant reçu le royaume, vous avez reçu la miséricorde, le don de la miséricorde. Vous êtes au bénéfice de la miséricorde de Dieu et Dieu a changé votre cœur. Il vous a transformé en faisant de vous un homme miséricordieux et une femme miséricordieuse. Ainsi, vous allez demander à Dieu de vous faire la grâce chaque jour de pouvoir exercer la miséricorde dans votre famille, autour de vous, dans votre église, dans votre travail, dans votre quartier. Pourquoi? Parce que c'est à cela que le Christ nous appelle. Il nous appelle à être ce qu'il a fait déjà de nous. Il nous appelle à faire ce qu'il a fait déjà pour nous, frères et sœurs, mères bien-aimées. Que le Seigneur nous en fasse la grâce. Amen.